Entre Story. Bonjour et bienvenue sur Entre Story. L'hiver débarque dans nos contrées, une excellente excuse pour partir en voyage avec tout l'argent gagné via Patreon, les pubs YouTube et les commissions Amazon d'Entre Story. Ah, on me dit dans l'oreillette que ça peut éventuellement suffire pour me payer le trajet à l'aéroport, pas plus. Bon, du coup, heureusement qu'il me reste des heures supplémentaires et des vacances en rab, de quoi me promener en Asie, en Indonésie et en Malaisie plus précisément. Vous me direz, mais on s'en fout. Ouais, je sais, mais quand même, je prépare toujours un truc avant de partir en voyage de longue durée, et je pense que ça peut vous intéresser. Comment faire son sac à dos? Non, c'est pas ça. Quelques t-shirts, des slips et des tongs entassés, et c'est bon. Comment réserver un hôtel? Oh, pas non plus, vous connaissez Airbnb à Godard, rien à dire de plus. Comment faire son itinéraire? Ah, je saurais pas vous dire, j'ai juste fait quelques points sur la carte et on verra bien. Je vais pas en voyage pour ne pas être libre, et en plus, de toute façon, je change toujours d'avis pendant mon voyage. Non, mon vrai problème avant de partir en voyage, c'est que je sais qu'il va me falloir énormément de trucs à écouter. Entre l'avion, les inévitables attentes, les soirées tranquilles, les longs trajets, bref, en voyage, je lis et j'écoute énormément de choses. J'ai donc fait ma petite sélection, et comme vous aussi vous aimez écouter des gens parler pendant des heures, a priori si vous écoutez Entre Story, je vais vous en faire profiter. Avec un focus particulier sur les sciences sociales et la science en général, même si évidemment je vais pas m'empêcher de faire quelques digressions et que je vois le truc dans un sens plutôt large. Petit détail non négligeable, une très grosse partie des podcasts et des livres audio que je vais vous conseiller sont en anglais. Ben oui, niveau livre audio, c'est presque un désert abyssal contre une galaxie infinie. Niveau podcast, c'est déjà mieux, mais on est aussi très loin d'atteindre la richesse et la qualité qu'on a en anglais. Un petit mot là-dessus. N'ayez pas peur de vous lancer dans l'écoute en anglais, c'est bien plus facile à comprendre qu'on ne le croit, et, avantage non négligeable, savoir l'anglais me semble indispensable, tant pour votre intérêt scientifique que pour la communication en voyage. C'est simple, en train et deux mois avant chaque voyage, je switch toutes mes écoutes en anglais, podcast ou livre audio, pour me remettre dans le bain et récupérer un peu de vocabulaire. Mais avant de passer à l'anglais, voici un extrait du premier podcast dont j'aimerais vous parler.
Vous croyez que votre choix de vote est rationnel? Vous pensez qu'un vote démocratique est la façon la plus juste d'élire ceux qui nous gouvernent? Si la réponse est oui, alors vous ne serez pas déçu de ce que vous allez entendre.
Eh oui, même si Podcast Science parle plus souvent de sciences dites dures que de sciences sociales, ils ont tout de même abordé des sujets qui s'y rattachent. Ils ont 276 épisodes à leur actif, dont celui dont est tiré l'extrait sur la démocratie. Rien à dire sur Podcast Science, je suppose que de toute façon vous les écoutez déjà, piochez les thèmes que vous préférez et bonne écoute. Celui-ci était l'épisode 84. Un autre épisode que je vous conseille, qu'on peut aussi rattacher aux sciences sociales, c'est cet épisode.
L'histoire de toutes les sciences est faite de grands bouleversements. La physique a découvert il y a moins d'un siècle que le temps n'est pas absolu, ou encore les mathématiques ont été attaquées par un paradoxe logique au début du XXe siècle. Bref, il y a toujours des grands rebondissements. L'histoire de la médecine n'est pas moins passionnante. Essayer de comprendre le vivant et de le soigner n'est pas mince affaire. Surtout quand le sujet, l'être humain, est particulièrement attiré par les fausses coïncidences et les conclusions hâtives. Ce soir, on reçoit un spécialiste pour nous raconter l'histoire de la médecine. Vous êtes dans Podcast Science, nous sommes dans l'épisode 215. Bienvenue.
Il s'agit de l'épisode numéro 215, l'histoire de la médecine avec Nota Bene, que vous connaissez certainement si vous vous baladez de temps en temps sur YouTube. Comme je le disais, il y a énormément d'épisodes, tous de qualité. Si la qualité audio de certains épisodes vous rebute, passez au suivant, les enregistrements ne sont pas toujours faciles à réaliser via Skype. Même conseil, d'ailleurs, pour un podcast que j'aime aussi beaucoup, Scepticisme Scientifique, fondé par Jean-Michel Abrassard, que vous avez déjà entendu sur Entre Story. Là aussi, énormément de sujets sont traités, du plus étonnant au plus classique. Ici, par exemple, un épisode indispensable sur les sondages, un sujet super important puisque les médias en parlent souvent et que c'est vraiment mis à mal ces derniers temps. C'est l'épisode 133.
Pour bien montrer ça, hein, le thème de cette émission, c'est vraiment les sondages. Et dans les sondages, alors il y a beaucoup de choses à raconter, évidemment de manière négative, je vais pas faire l'éloge des sondages, même si... Pour là encore préciser les choses, je suis bien convaincu que les sondages sont un outil tout à fait utile. C'est les questionnaires en fait, hein, les questionnaires s'utilisent très régulièrement en sciences humaines et c'est très très utile. Mais c'est un outil délicat, difficile à bien gérer. Il y a tout un tas d'erreurs dans lesquelles il ne faut pas tomber. C'est de ces erreurs-là, des erreurs méthodologiques sur la manière de poser les questions que je vais vous parler aujourd'hui. Et seulement de ce point-là, c'est-à-dire comment faut-il poser les questions. Il y a tout un tas d'autres problèmes qui se posent avec les sondages, notamment La question de savoir s'il faut faire les sondages par téléphone, par internet ou en vis-à-vis, de savoir comment choisir l'échantillon de la population. En général, on choisit un échantillon dit représentatif, il y a plusieurs méthodes pour faire ça. Tout ça, j'en discute pas. Il y a aussi la question de savoir comment on traite les données ensuite, quelles statistiques on va faire, comment on va interpréter les résultats obtenus. Tout ça, j'en parle pas non plus. Donc, je vais seulement parler de la manière de poser les questions et citer quelques erreurs fréquentes, quelques pièges dans lesquels il faut absolument pas tomber quand on veut faire correctement un sondage.
Un autre sujet génial, dont j'ai appris l'existence justement grâce à Jean-Michel, la para-anthropologie, épisode 178.
Évidemment, certaines de ces cultures ont une relation différente de la culture occidentale au paranormal. Une des idées qui est fort intéressante que, quand on s'intéresse justement à la para-anthropologie, c'est que l'idée même qu'il y a du normal et du paranormal, c'est une idée culturelle occidentale. Parce que pour qu'il y ait une notion de paranormal, il faut qu'il y ait une idée de normal. Et cette idée de normal n'est apparue même en Occident qu'avec la science moderne, donc après Galilée, etc. On a eu l'idée qu'il y avait un ordre des choses, et parfois cet ordre des choses est perturbé, et donc on est dans du paranormal.
Un dernier pour la route, peut-être plus funny pour ceux qui ont besoin d'un épisode tremplin, l'épisode 244, La science derrière Godzilla.
Et oui, alors le film est fort sympathique, en tout cas au niveau divertissement, il n'y a pas de souci, c'est très divertissant. Et après, ce qu'il y a d'intéressant avec le film, c'est que il essaye de donner un background, on va dire scientifique, à Godzilla. Et ce qui est assez révélateur finalement de l'image que au moins les créateurs de films ont de la science, de notre science à nous, qui est la paléontologie. Donc là, on a deux personnages de scientifiques, à savoir le père du héros et puis on va dire, alors je sais plus comment c'est son nom dans le...
Enfin c'est Ken Watanabe l'acteur, en tout cas je ne sais pas.
Voilà, le personnage joué par Ken Watanabe, voilà.
On passe à l'histoire, avec un podcast d'une grande qualité, tant au niveau de la qualité des sujets, des recherches qu'ils impliquent, tout en ayant une maîtrise parfaite du niveau technique. Je suis un grand fan, Temporium, de Richard Fremder.
À l'automne 911, le village de Saint-Clair-sur-Epte est en émoi. Un événement important se prépare certainement car le roi, Charles le Simple, est présent, avec sa garde personnelle. Des hommes lourdement armés, méfiants, tendus, aux aguets. Saint-Clair-sur-Epte, comme son nom l'indique, est bordé d'une rivière, l'Epte, longue de 100 km, et affluent de la rive droite de la Seine. Cette rivière marque de nos jours la limite naturelle entre l'île de France et la Normandie, et Saint-Clair-sur-Epte est aujourd'hui dans le Val d'Oise. Charles attend. Il est venu de Paris pour rencontrer un personnage venu des mers. Oh, pas du tout un roi comme lui, non, c'est un chef de guerre viking, c'est Roland. Et cet événement dont les Saint-Clairois vont être les témoins, eh bien c'est tout simplement le traité par lequel le roi de France cède contre l'arrêt des pillages un territoire entre l'Epte et la mer, et qui deviendra, vous l'avez sans doute compris, la Normandie. Aujourd'hui, sur Herodote.net, l'extraordinaire saga des Vikings.
Cet épisode nous parle des Vikings. Son titre est « La saga des Vikings ». Vous en trouverez un autre sur le sujet tout aussi intéressant, « Les Vikings et le mythe du barbare ». Toujours pas convaincu d'écouter Temporium ? Voici un sujet qui devrait plaire à tout le monde.
La bière est la preuve que Dieu nous aime et veut que nous soyons heureux. Benjamin Franklin. Aujourd'hui, l'histoire de la bière.
Ah, j'en vois que ça intéresse. Forcément, quand on parle de l'histoire de la bière, là, il y a du monde. Et je vous avouerai que j'en prendrais bien une, il fait vraiment chaud à la Bouane Bajo. Mais pour les plus fins d'entre vous, ceux qui ont vraiment du goût, en voici un autre qui devrait vous plaire. L'histoire du whisky.
Bonjour Prem.
Bonjour.
Tout va bien ? Très bien.
Bon, le sujet qu'on va aborder dans cette émission est assez original. Je crois que j'ai pas souvent eu l'occasion de l'entendre à la radio. En tout cas, de mon expérience, je l'ai jamais entendu. Il fait un peu écho, on va le dire, à l'histoire de la bière qui cartonne toujours sur le site, surtout en été, vous l'imaginez bien. Sauf que la bière, quand je l'ai faite à l'époque, je savais ce que c'était. Moi, quand j'ai enregistré l'histoire de la bière, j'avais déjà bu pas mal de bière, c'est vrai. Et que la boisson d'aujourd'hui, je la découvre depuis très peu de temps. Il faut l'avouer, il s'agit du whisky. Je vous dis que pour moi, pendant longtemps, le whisky, c'était la prohibition, J.R. et Swellen dans Dallas, même les westerns, évidemment. En passant, je vous assure que c'est vrai, par le Canada Dry, quand on était plus jeune. J'ai Prem qui me fait des sourires. Ouais, bon, les quadras savent de quoi je parle, évidemment. Douglas Young, un poète du siècle dernier, poète écossais, je crois, écrivait « Les Écossais ont inventé le whisky pour soigner les mulets malades. D'un médicament, ils en ont fait une boisson. »
Bien entendu, Temporium parle d'énormément de sujets, des rois de France au tombeau du Christ, c'est à écouter sans aucune modération. Avant de passer aux productions anglophones, j'aimerais vous parler brièvement d'une émission radio québécoise, La Sphère, dont voici un petit extrait pour ceux qui ont peur de ne rien comprendre.
En direct du studio 25 de la Maison de Radio-Canada, c'est La Sphère qui vous parle aujourd'hui, oui, de données. Mathieu Dugal au micro, très heureux d'être encore là aujourd'hui avec vous, avec Catherine Matisse, Nadia Serayoko qui est en remplacement de Martin Lessard, bonjour, ainsi que Fabien Lozac. Et cette voix que vous avez entendue, ben, c'est nul autre que Tim Berners-Lee. Notre invité de La Sphère, c'était au mois d'avril dernier, Tim Berners-Lee, qui a fait un vibrant plaidoyer pour regagner le contrôle, une reconquête de nos données. C'était dans une entrevue que ce fondateur, il faut quand même le dire, c'est le fondateur du WWW, nous invitait également à devenir des activistes. Hein. Si vous utilisez le web, là, ben, devenez aussi des activistes parce que vous allez vous les faire voler vos libertés. Et là, on s'est rendu compte cette semaine, ça arrive partout dans le monde, ce qu'on a vu ici avec l'affaire Lagacé, mais c'est un journaliste très connu, ça a un impact qui...
Oui, je crois vraiment qu'il y a un chat sur le toit de mon petit bungalow à la Bonne Badjao. C'est possible que vous l'entendiez, sinon tant pis, vous avez loupé un chat. Bref, on continue. Vous me direz quel rapport avec les sciences humaines? C'est une émission tech. Eh bien justement, là où la plupart des podcasts se concentrent sur un aspect très technologique et technique, voire commercial, La Sphère voit souvent la tech avec un regard très social, s'intéresse aux interactions, aux changements de société et même, chose rarissime dans les podcasts tech, à l'art numérique. Ils ont d'ailleurs déjà interviewé des anthropologues, chose si rare qu'ils méritent une mention spéciale. Et là, je sais que je vais en énerver certains, mais c'est une des seules émissions tech à chercher la parité dans l'équipe et dans les invités, choisissant la discrimination positive pour y arriver. Le manque de représentation féminine dans les médias, surtout tech et scientifiques, exacerbé par le manque total d'intérêt sur la question de la plupart des podcasteurs, fait que là aussi, La Sphère est à écouter et à soutenir. On redevient un poil plus léger pour finir sur la podcastosphère francophone avec un podcast que j'aime beaucoup. N'y cherchez pas de sciences humaines, mais c'est pour faire une pause entre les thématiques plus complexes, quoique ça peut aussi être complexe.
Arrive pour moi à ce qui est la première scène extraordinaire du film. Alors tout le monde ne partage peut-être pas cet avis, mais moi c'est l'une de mes scènes préférées. C'est la première où on voit les dinosaures, quoi. Taille réelle, j'ai envie de dire. Bien qu'il soit en image de synthèse. Je trouve que tout est absolument parfait dans cette scène, quoi. La façon dont Grant... Tu sais, les jeeps s'arrêtent au milieu de nulle part, a priori. Et la façon dont Grant se redresse, la façon dont il enlève ses lunettes en...
Il y croit pas, quoi. C'est ce feeling-là que t'as dans cette scène-là, c'est « Oh putain, quoi !»
Ses yeux, son regard, la façon dont il... parce que Ellie Sattler, elle regarde pas du tout, il attire son attention aussi, et puis ils vont sortir de la voiture, et ils sont complètement fascinés, et c'est long, hein, la première fois que tu vois, tu dis « Putain, allez, couvre le dinosaure, quoi !» Et puis tu le vois, et là, c'est juste ouf, quoi. Et moi, c'est une... Moi, c'est une scène qui me met les larmes aux yeux à chaque fois, parce qu'en plus, là, t'as le thème de John Williams. C'est vrai qu'on n'a pas cité ça, mais il y a la musique de John Williams qui est sublime aussi. Et j'adore cette scène, quoi.
Non, mais je suis d'accord avec toi.
J'adore cette scène, rien qu'en réécoutant la musique. Moi, j'ai la gorge qui se serre, j'ai vraiment les larmes aux yeux, en plus. Hein, c'est l'une des scènes les plus sublimes du film, quoi. Il y a Hammond, hein, qui est hyper content... Il y a Malcolm qui sort un truc du genre il l'a vraiment fait ce vieux fou, un truc comme ça. Mais c'est vraiment les réactions de Grant et Sattler qui sont extraordinaires. Et puis de les voir dans le même plan que le dinosaure, enfin c'est...
Oui, puis voilà, on est assez vite dans le film. Ouais. Et ils montrent déjà, même si c'est des dinosaures, c'est des herbivores gentils et tout ça, on voit quand même l'échelle, la qualité et tout ça. Et c'est impressionnant la première fois que tu vois ça, quoi.
Un podcast cinéma qui parle de Jurassic Park. Évidemment, je ne peux qu'être un grand fan. 24 FPS est un podcast sur le cinéma qui a pour particularité de parler des films scène par scène, permettant d'avoir un avis détaillé tant sur la réalisation, les acteurs, le scénario et les histoires de tournage. La première partie, sans spoiler, est toujours très richement documentée par Jérôme, avec une préparation exemplaire, une mine d'or pour ceux qui aiment le cinéma. La deuxième partie est, elle, avec spoiler, attention avant de l'écouter.
Alors, j'avais jamais fait ça et bah, il valait mieux pas. Mais enfin, bon, quand je vois la longueur du conducteur que j'ai sous les yeux, donc je pense qu'on va être ensemble pour un bon petit moment. Puisqu'on va donc parler de Star Wars, ça je l'ai déjà dit. Mais 6 films d'un coup, ça ferait peut-être beaucoup. Donc là, on va s'intéresser aux 3 premiers. Et tout de suite, une clarification, qu'est-ce qu'on appelle les 3 premiers? Parce que s'il y a bien un truc qui est pas clair dans l'univers de Star Wars, c'est quand on dit « Ah oui, mais dans le premier film... » Oui, c'est quoi le premier film? Le premier film qui est sorti? Le premier film qui raconte l'histoire? On sait pas. Donc, aujourd'hui... Nous, on va parler de la trilogie originale par opposition à la prélogie. La prélogie donc étant les épisodes 1, 2 et 3 sortis entre la fin des années 90 et le début des années 2000. Donc aujourd'hui, plutôt la trilogie entre la fin des années 70 et le début des années 80.
Et oui, ils ont fait plein d'épisodes sur Star Wars. Ils sont extrêmement détaillés, même pour un fan comme moi qui a regardé des reportages sur les films. C'est long... Très long, mais c'est probablement ce qu'il y a de plus complet à écouter sur les sagas Star Wars, et je m'incline totalement devant la masse de travail effectué. On abandonne le cinéma et le français pour l'anglais, entre podcast et livre audio.
You know, we kind of went back and forth of what to title this episode, you know, and one of it was sort of why do Americans hate politicians, or why are we fed up with American politics, or what?
Why do we concern ourselves with elections? Why do we run away from elections? Hey, really, we're just recognizing that there is a stigma against this season right now. The elections are causing a lot of disdain, and the media coverage is all over it. So if it's the most popular thing in the media, yet it's causing such a distaste in us, what is the problem? And we actually think that there are a lot of different reasons for the problems we're having, and that's one of the things that makes it so interesting. So, to start off, we could talk about what we have in common with politics, say, 10,000 years ago, and what that actually has to do with today.
And the real comparative spirit of anthropology.
Exactly. So, for the human species, as we understand it today, we've been around for about 250,000 years.
And it's a pretty good run, no?
Oh, yeah, I think we're doing okay. Yeah. But for city life, for real dwellings with large groups of people, that's only been for about the past, say, 5,000 to 7,000 years.
This Anthropological Life, dont vous venez d'entendre un extrait, est un podcast sur l'anthropologie, créé par 5 anthropologues. Leurs épisodes sont parfois des discussions, comme vous venez de l'entendre, ici sur la démocratie, aux États-Unis, d'autres sont des sortes de reportages de terrain. Les sujets sont très variés, de la construction du podcast en lui-même, au débat autour de l'anthropologie, à la bière, en passant par la violence, la technologie... Bref, tout ce qui concerne l'humain, pas vraiment loin de ce qu'on veut faire sur AnthroStory. Il faut ajouter qu'ils sont, depuis peu, soutenus par l'AAA, l'Association Américaine d'Anthropologie, et c'est quand même vachement classe. Il existe d'autres podcasts sur l'anthropologie en anglais, souvent faits par des étudiants. La qualité est fort variable, la qualité d'enregistrement aussi, et ils sont souvent plus faits pour des anthropologues que pour les amateurs. N'ayant croché à aucun, je ne saurais que vous conseiller de taper « podcast anthropology » sur Google et de faire votre choix vous-même. Suite logique de The Anthropological Life, ce podcast que vous devriez tous écouter.
Can I just say with all due respect, I've had this conversation with superintendents and principals sure. in districts that look just like Normandy sure. and schools that look just like Normandy for more than a decade. Sure. And you can look at districts and schools with the same racial makeup in every urban community across the country. Right. And the same thing is said. We know what we need to do, mm-hmm. but the schools do not turn around. Typically, an entire district does not turn around.
The entire district has never turned around. It has never happened. But that doesn't relieve us of the charge to attempt to do it. So you're right. It hasn't been done. However, our obligation to attempt to do it, it still remains. The kids are here. So you're right. It hasn't been done. But it's our watch.
So then, knowing that in these high poverty segregated districts, the students aren't doing well, mm-hmm. is it possible for a black child in Missouri to get an equal education?
Mm. Wow, what a great question. The answer right now, I really don't know.
Suite logique parce que c'est This American Life, probablement une des meilleures émissions radio jamais produites, au départ sur NPR, puis en podcast, dirigé par un maître du storytelling, Ira Glass. Dans l'émission dont l'extrait est tiré, The Problem We All Live With, Nicole Hannah-Jones parle de l'éducation aux US, et principalement du problème de la ségrégation entre les écoles pour blancs et celles pour noirs. Le ferry va partir, au cas où ça vous intéresse. Parce que oui, si la ségrégation n'existe plus officiellement depuis des années, en vrai, elle est toujours là. C'est probablement un des épisodes que j'ai préféré, c'est hard. On se prend de la vraie vie en plein dans la gueule. Ça révolte. Bref, c'est juste du très 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 bon comme on entend rarement. Évidemment, ce n'est pas de l'anthropologie, c'est du journalisme narratif, du reportage de terrain très monté, on pourrait éventuellement parler d'ethnographie légère et subjective. Mais c'est dans le titre, les images audio de vie américaine, de ses côtés les plus fun, aux histoires les plus sombres. Micro-instant, je m'énerve tout seul contre les gens, mais ces derniers mois m'ont passablement énervé, tant dans les médias que sur les réseaux sociaux et les rencontres IRL. Surtout, je dois l'avouer, avec des Français. Non, je ne parle pas de la déception de No Man's Sky. Non, c'est pas l'élection de Trump. Si les gens lisaient des sources différentes, ils l'auraient vu venir depuis longtemps. J'en parlerai dans un prochain épisode, mais un anthropologue avait écrit un superbe article en mai, par exemple, qui détaillait pourquoi Trump passerait. Et c'était plutôt correct. Non, je veux parler de la vision générale des Américains depuis la France, avec des phrases révoltantes du genre « Un peuple de cons avec un président con, c'est bien mérité ». Bon, c'est pas pour dire, hein, mais vu la tronche et la popularité de Hollande, je sais pas trop si j'oserais la ramener sur le sujet en tant que Français. Mais passons, je suis Suisse, j'ai pas vraiment le droit de juger. Oublions aussi l'illogisme de toutes ces remarques, Barack Obama ayant été élu avec le même processus démocratique et dans le même pays dit de con. Oublions aussi qu'une vision critique de l'ère Obama nous laisserait sur un « bof ouais, pas si mal, mais bof quand même, mais bon, il est quand même mignon », et qu'en principe, on ne commence à juger le mandat d'un président qu'après les 100 premiers jours. Ah oui, même si on est en droit d'avoir des doutes sur la présidence de Trump, hein, j'en ai, je vous rassure, faut attendre. C'est ça dans la vraie vie, hein, faut attendre avant de voir ce qui se passe. Déjà, penser que 320 millions de personnes sont connes, n'ont pas d'instruction et sont incapables de réfléchir, c'est assez scandaleux. Et surtout, c'est faux. Et ça vient généralement de gens qui n'ont jamais foutu les pieds aux US, ne se sont pas intéressés à son histoire, ignorent tout de la réalité de tous les jours et ne comprennent finalement pas grand-chose à rien. Tout ce qu'ils savent ne vient que par le prisme des grands médias français, pas forcément la meilleure source d'informations pertinentes sur les US, sur le reste aussi d'ailleurs. Comme bien souvent, ceux qui ont voyagé là-bas ont des avis plus nuancés. Ils n'occultent pas certains aspects politiques ou sociaux pour le moins indiscutables, mais voient la complexité des problématiques avec plus de pertinence. Rien ne vaut les longues discussions avec des Américains d'origine, des classes sociales variées, pour commencer à entrevoir la réalité, ou entrevoir ce qui peut être la réalité. Mais malheureusement, tout le monde n'a pas le temps et l'envie de voyager. Et c'est pour ça que des émissions comme The American Life peuvent être une bonne source d'information. Par exemple, l'épisode dont j'ai passé l'extrait peut, en moins d'une heure, vous éclairer sur le racisme plus ou moins conscient de la population américaine, des problèmes liés à l'éducation et à son importance pour trouver un travail, et pourra même vous mettre à la place d'élèves noirs, ce qui est plutôt rare pour un mec blanc suisse. Ou encore, cet épisode qui a remporté des prix.
You might have heard about problems in student lending. Companies that needed credit to survive are shutting down. The U.S. expects more than 1.1 million bankruptcies this year. Twice the 2006 number. This freezing of credit all around the world is something...
Oui, c'est l'appel à la prière. C'est 50% musulmans après la Buan Bajo. Hein. Vous êtes vraiment dedans, hein. C'est en vrai. Dans l'extrait que vous venez d'entendre, A Giant Pool of Money, Alex Bloomberg parle de la crise des subprimes, de tout le système qui a permis qu'une telle chose se produise. C'est probablement la meilleure vulgarisation faite sur ce sujet. Sur plus de 500 épisodes, The American Life a couvert une multitude de sujets, c'est très agréable à écouter, c'est du top niveau. Si les médias et les analyses des médias en eux-mêmes vous intéressent, je vous suggère l'écoute de On the Media sur NPR et de Recode Media de Peter Kafka, deux sources très intéressantes et complémentaires. Les épisodes après l'élection de Trump sont particulièrement intéressants, on les voit vraiment choqués, impressionnés et en plein auto-questionnement sur eux-mêmes et sur leur travail. C'est une très bonne entrée dans ces podcasts si vous ne les écoutez pas déjà. Petite transition. Vous savez ce qui s'est passé après la diffusion de l'épisode A Giant Pool of Money dont vous avez entendu l'extrait juste avant, sur The American Life ? NPR s'est dit qu'il était dommage qu'il n'existe pas d'émission de vulgarisation sur la finance et que le public en était fortement demandeur. Résultat, la création de Planet Money. Ouais, mais la finance, c'est chiant puis c'est compliqué. Vous dites-vous peut-être. Ben non. Preuve avec cet excellent épisode sur l'économie des zoos, de zoo economy, où acheter et vendre des animaux est interdit.
Now, normally when you have something that you don't want anymore, you put it up for sale, right? You put an ad on Craigslist, 3 elephants, good condition, no reasonable offer refused, must pick up and move yourself. But zoo animals are different from most possessions because zoos have this fundamental principle. You cannot sell your animals. You can't buy animals either. It is unethical, illegal even, to put a price tag on an elephant's head. I'm going to say my name first, and then you say your name.
Okay.
Hello, and welcome to Planet Money. I'm Robert Smith.
And I'm Gabriella Emanuel. I've been reporting for NPR's National Desk.
Today on the show, why did zoos and aquariums give up one of the most useful tools a business has, the ability to buy and sell their assets? And what do you do in a world where you can't use money?
Très bien produit, il s'intéresse au commerce, à la finance, finalement partout il y a échange de valeurs, que ce soit sur le net ou ailleurs, et c'est très bien vulgarisé. Comprendre l'économie me semble indispensable dans un monde capitaliste, et Planet Money rend cette tâche agréable. J'espère que vous m'entendez un tout petit peu plus que le muezzin, c'est très très fort à la Labuan Bajo, je suis pas très loin de la mosquée. Sachez que c'est la même chose, à 4h du matin, et que ça dure 20 minutes. Bah, j'ai rien contre les religions, mais 4h du matin, sérieusement, c'est très tôt. Un autre podcast, créé par un francophone, mais en anglais, que j'aime beaucoup.
Of indulgence for how this goes, but anyway, let's jump into it and see what happens. As I said, my name is Patrick Beja. Usually, we have our good friend Turkey from Saudi Arabia, and he was really looking forward to being on the show today. Unfortunately, evil kidney stones have attacked his body, and he's doing fine. He's recovering, but he couldn't be on the show. He was scheduled and everything. So before the show started, we were discussing whether or not we should blame, you know, we should blame Trump already, starting saying thanks Trump, or if it was still thanks Obama era, or whether or not Matthias on this side of the show was saying it's probably thanks Hillary, because if we want to blame people. But so yeah, let's introduce the guests. First of all, Matthias from Germany. How are you doing, sir?
Hello, everyone from rainy and gray Germany. I'm doing fine, but then again, the weather here is awful these days, so that doesn't help the mood, really. But then again, that's in theme with everything that's happened last week.
Well, I'm looking forward to hearing what you have to say about this and how things have been discussed in Germany. On the other side of the panel is from South Africa, Paolo, who's joining us. How are you doing, Paolo?
Alors, l'extrait n'est pas super flatteur parce que c'est des émissions très longues, donc c'est très dur d'avoir un morceau super catchy à prendre. Mais c'est une très bonne émission. The Phileas Club, fait par Patrick Beja, aussi créateur du Rendez-vous Tech, Positron, Upload et d'autres, est une émission qui regroupe des invités du monde entier qui parlent des sujets qui font l'actualité chez eux, mais aussi de la vision nationale des actualités extérieures. Les discussions y sont détaillées, équilibrées, les invités sont de qualité, c'est du tout bon. Il est rare de voir des podcasts aussi cosmopolites et avec une vision aussi globale de l'information. Ils font partie des podcasts dont l'existence est, à mon avis, nécessaire. C'est pas seulement qu'ils sont chouettes à écouter ou qu'ils passent le temps, c'est qu'ils sont nécessaires. Le ton de la discussion fait qu'il est très agréable et facile à comprendre, généralement c'est très bien enregistré, même pour ceux dont le niveau d'anglais est très moyen, je vous rassure, le mien n'est pas très bon et je comprends à peu près tout parfaitement. Un autre podcast dont je ne vais pas diffuser d'extrait, mais écoutez quand même, The Skeptic Guide to the Universe. Un podcast qu'on pourrait rattacher à scepticisme scientifique sur certaines thématiques, hein. C'est un podcast sceptique. Les sujets traités sont variés, certains concernent directement les sciences sociales, d'autres moins ou pas du tout, par une équipe qui marche très bien, qui est très expérimentée, des centaines d'épisodes à leur actif, à plus de 500 je crois, à écouter sans aucune hésitation pour affiner son esprit critique. On quitte totalement ou presque le domaine de la science et du scepticisme avec deux podcasts dont je vous conseille l'écoute pour vous détendre.
No one likes to be alone. Even introverts need to come up for air every now and then and experience human contact. Being around others has a way of calming our souls and imparting a bit of safety, if only in theory. But sometimes even crowds of people and scores of friends can't fight the crippling feeling that we are, in the end, isolated and alone. Humans have become very good at chasing away that feeling, though. When darkness threatened to cut us off from the world around us, we discovered fire and then electrical lights. We use technology today to help us stay connected to friends and relatives who live thousands of miles away. And yet the feeling of loneliness grows deeper every year. We've learned to harness tools to fight it, though. In ancient cultures, in the days before Facebook and the printing press, if you can fathom that, society fought the feeling of being alone with story. Each culture developed a set of tales, a mythology, and surrounding lore that filled in the cracks. These stories explained the unexplainable. They filled the dark night with figures and shapes, and they gave people, lonely or not, something else to talk about, something other. Some tales were there to teach. Some preached morals through analogy. Others offered a word of warning or a lesson that would keep children safe. In the end, though, all of them did something that we couldn't do on our own. They put us in our place. They offered perspective. It might seem like we're at the top of the food chain, but what if we're not? From the ancient hills of Iceland and Brazil to the blacktop streets of urban America, our fascination with the others has been a constant, unrelenting obsession. But while most stories only make us smile at the pure fantasy of it all, there are some that defy dismissal. They leave us with more questions than answers. And they force us to come to grips with a frightening truth. If we're not alone in this world, then we're also not safe. I'm Aaron Mankey, and this is Lore.
Lore, un podcast magnifiquement produit, qui raconte des histoires qui font souvent peur, souvent en lien avec le paranormal, les légendes et les mythes qui nous entourent. Rien de scientifique ni de critique, ici on est là pour écouter des histoires. Ce que vous venez d'écouter est l'introduction de l'épisode 14, The Others.
Welcome back to Astonishing Legends. I'm Scott Philbrook. And this is Forrest Burgess.
I have learned from experience that a modicum of snuff can be most efficacious. Fictional character Hieronymus Carl Friedrich von Munchausen on escaping from a monster.
Join us tonight as we take a look back at a gold prospector's encounter in 1924 that would later become simultaneously one of the most absurd and most intriguing Bigfoot encounters of all time.
Un autre podcast du genre. Quoique moins produit, mais très bien produit quand même, dont j'aime certains épisodes. Astonishing Legend, que vous venez d'entendre. C'est une discussion entre deux potes fans de paranormal et d'histoires étranges. Ils mettent un gros focus sur une histoire différente à chaque épisode. Ici, celle du Bigfoot qui kidnappe un chercheur d'or. Avertissement de rigueur. Ce n'est pas un podcast sceptique. Si, sur certains épisodes, notamment cette histoire du Bigfoot, ils admettent que l'histoire est absurde et qu'ils la racontent plus parce que c'est une histoire funny que parce qu'ils y croient, ils n'ont pas un regard sceptique sur beaucoup d'autres. Si je les écoute, c'est parce que ce sont des histoires sympas et qu'on apprend sur le folklore de certaines régions, et parce qu'une bonne histoire n'a pas besoin d'être vraie pour être une bonne histoire. Je trouve que la publicité est trop présente sur les derniers épisodes et c'est donc beaucoup moins sympa à écouter. Je vous conseille l'épisode « Kidnapped by Bigfoot, The Albert Osman Story », les épisodes sur Amelia Earhart, l'aviatrice, et « The Pearl of Siberia ». Dernier conseil de podcast à écouter, « Startup » de Gimlet Media, par Alex Bloomberg, ancien de The American Life et Planet Money, et oui, le monde est tout petit. Dans la première saison, clairement la plus intéressante et la plus intimiste, on suit Alex Bloomberg, qui vient de quitter NPR pour fonder une start-up en rapport avec les podcasts, sans savoir précisément quoi ni comment. C'est absolument passionnant, une vision de ce que c'est en vrai, avec toutes ses questions, ses joies, ses peurs et ses déceptions. Dans l'extrait qui va suivre, on suit Alex et son collaborateur qui cherchent un nom pour leur nouvelle start-up, et Alex va ensuite le dire à sa femme.
Then we found it. Arello. I like Arello.
That is, what is Arello?
That's ear in Esperanto. I don't know, I think I like the sounds.
It's oral.
It sounds like oral. It also sounds like Oreo, which everybody has good feelings about. Arello. Of all the Esperanto words, I like Arello.
Arello is very pleasing. Arello.
1, 2, 3, 1, 2, 3. All right. Later that night, I ran our new name by my wife, Nazanin. Arello.
Arello? Arello. What is that supposed to mean?
Well, it's ear in Esperanto.
Oh my God. That's so dumb.
So dumb, it's good though, right?
What? Whose idea was that?
Ouais, pas du tout la réaction qu'on souhaite avoir. Hein. Et c'est justement une des choses qui rend ce podcast vraiment très fort, cette sincérité brute où presque aucun polish n'a été passé. Je dis presque, hein, parce que si vous connaissez un peu le travail d'Alex Bloomberg, vous savez que chaque épisode est très travaillé et que presque rien n'est laissé au hasard. Mais qu'importe, on s'en fout, c'est super bien, et c'est un must pour les fans de Silicon Valley. Pour finir, je vais vous conseiller quelques livres audio sans en mettre d'extrait pour éviter de me faire striker par YouTube. Dans l'ensemble, j'utilise beaucoup Audible, qui est un service lié à Amazon, qui permet d'avoir un abonnement mensuel qui débloque un nouveau livre audio par mois. Ça coûte, je crois, dans les 12-14 euros, un truc comme ça. Moi, je paye ça en dollars aux États-Unis. Les prix sont super avantageux, hein, ça vous fait un bouquin chaque 14 euros. Ça peut être des longs bouquins qui durent 25 heures, donc ça va. Il y a souvent des actions en plus et la qualité est toujours top. Comme dit en introduction, il n'y a presque aucun livre ou cours de science sur Audible en version française. C'est vraiment pas très bon ce qu'il y a sur Audible France. Vous pouvez quand même les chercher sur le site français, hein, les trucs en anglais qui sont vachement bien. Mais je pense que c'est mieux d'utiliser audible.com. Déjà, la recherche est les plus faciles puisque vous cherchez directement en anglais et c'est ce que vous cherchez. Mais en plus, vous allez souvent recevoir des offres spéciales. Genre des livres à 5$, des livres à moitié prix, des crédits à moitié prix, des séries à moitié prix. Vous avez même parfois, vous savez, vous avez une wishlist, hein, donc une liste de souhaits où vous pouvez mettre ben, ce livre-là, je l'achèterai un jour. Où ils vous disent, ben, tiens, tac, toute ta wishlist, elle est à 50%. Donc vraiment des offres mortelles. Offre que vous aurez pas ou vous aurez seulement pour des livres en français sur Audible France via le store français. Hein.
Enfin bref, tout ça c'est pas très pratique, hein. Moi ce que je vous conseille c'est d'aller sur audible.com et de vous inscrire de là. Enfin bon, si vous savez l'anglais, allez plutôt vraiment vers le store anglais, c'est beaucoup plus avantageux. Autre remarque, avant que je me fasse brûler vif par les adeptes du logiciel libre et des anti-Amazon, il y a des DRM sur les livres. Ce qui veut dire que si vous voulez les écouter sur un lecteur MP3, il va falloir les débloquer d'abord avant de les transférer. Ça ne pose aucun problème si vous les écoutez uniquement sur PC, ou alors sur vos smartphones, hein, en ligne, ou alors en streaming, ou en les téléchargeant. Les apps sont d'ailleurs super bien faites, et proposent même parfois du contenu enrichi, ou la version Kindle par exemple. Mais c'est super chiant. Si, comme moi, vous avez un lecteur MP3 old school, pour info j'ai un Cowan Plainwoodie, parce qu'il y a 100 heures d'autonomie et que c'est juste génial en voyage, et ben moi je dois hacker mes livres, enfin les débloquer pour pouvoir les lire sur mon lecteur Cowan, et c'est un petit peu con parce que je les ai achetés, enfin bref, voilà, toute histoire de DRM c'est complètement con, mais voilà, c'est comme ça. Si vous êtes toujours avec vos smartphones à écouter des livres audio, ça vous posera aucun problème. Je vous rappelle aussi au niveau des livres audio, hein, si par exemple vous avez un petit peu peur de commencer à écouter un livre audio, que vous pouvez sur audible.com et audible.fr d'ailleurs, vous avez, quand vous inscrivez, vous avez un mois gratuit, c'est-à-dire un bouquin gratuit, donc vous pouvez toujours essayer, savoir si ça marche ou pas, et si vous n'avez pas les moyens parce que vous êtes étudiant et puis que voilà, eh ben, vous pouvez toujours aller chercher ces livres chez l'ami Torrent de Pirate Bay. Je vais dire l'ami Laurent de Lance des Flibus, qui est lapsus. Je vous conseille les Great Courses, qui sont des lectures faites par des professeurs spécialisés, très longues, mais très documentées, surtout sur l'histoire. Par exemple, The Other Side of History, Daily Life in the Ancient World. Le principe est simple, parler d'histoire, mais en s'intéressant aux gens du peuple, aux femmes, aux esclaves, dont les histoires sont souvent laissées de côté au profit de l'histoire des riches et des rois. Hein. Ce qu'on apprend à l'école, généralement, c'est vraiment, vraiment passionnant. Ou encore, tiens, pour faire le lien avec avant, The Viking, sur les Vikings. The Story of Human Language, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la linguistique. The Medieval World, tiens, si vous avez aimé l'épisode de Nota Bene sur la médecine au Moyen-Âge. Et The Barbarian Empire of the Steppe sur les Mongols, à écouter absolument évidemment. Mais il y en a vraiment plein sur la bouffe, la science-fiction, comment écrire de la science-fiction, sur la mythologie, ils sont super complets et super longs, c'est vraiment du lourd, c'est vraiment du bon. Or, Great Courses, vous avez aussi par exemple, pour ceux qui écoutent Entre Stories, ça peut les intéresser, Sapiens, A Brief History of Humankind, de Yuval Noah Harari. En anthropologie, il y a quelques livres aussi, genre Biological Anthropology, An Evolutionary Perspective, Social and Cultural Anthropology, A Very Short Introduction, A Macat Analysis of Claude Lévi-Strauss, Structural Anthropology, et quelques livres de Jared Diamond comme Collapse et Guns, Germs and Steel. Bref, si avec ça vous en avez pas assez, parce que là, on parle quand même de plus d'une centaine d'heures rien qu'en livre audio que je viens de vous conseiller. Je sais plus quoi faire. Si vous captez pas trop parce que j'ai un accent anglais vraiment pourri, vous avez qu'à taper Entre Story, livre audio, un truc comme ça, et l'article devrait arriver. Évidemment, entre tous ces cours et ces livres très sérieux, j'écoute du Kim Stanley Robinson, et oui, il y a le cycle martien, en version audio, en anglais par contre. Du Asimov, il y a Les Fondations, en anglais aussi, plein d'autres auteurs de SF, hein, il y en a vraiment plein, du Star Wars, il y a énormément de bouquins de Star Wars en audio, bref, du moment que vous commencez à comprendre l'anglais, il y a vraiment moyen de vous faire plaisir en livre audio. Tous les liens cités sont dans l'article qui accompagne cet épisode. Tapez juste Entre Story et le titre du podcast « Quel podcast et livre audio écouter en voyage ?» et vous trouverez votre bonheur. Je vais laisser finir le muezzin et on se voit dans quelques temps parce que je suis en vacances, donc j'ai pas vraiment que ça à faire que de faire des podcasts. Je suis en Indonésie, à Flores, Labuan Bajo, qui est un village de pêcheurs d'où on peut aller visiter l'île de Komodo, le parc de Komodo, aller voir des raimentas, aller voir des dragons. Oh, c'est plutôt cool, hein. C'est pas mal. Je vous en parlerai dans un prochain épisode. Allez, à ciao, bonsoir.
Trust Story.